et va ressortir avec un sac bourré de bijoux d'une valeur fabuleuse.
Il est allé jusqu'au bout du rêve libéral. Libéral, il respectait sa loi, sa propre loi du marché. Pas de loi, que la loi du marché, j'ai besoin, je me sers. Il n'y a pas de concurrence, la concurrence, ben, moi c'est moi, et puis voilà.
Ils avaient décidé d'être les meilleurs voleurs du monde.
Toi t'es flic, moi je suis truand, mais bon, qu'est-ce que ça change? On peut toujours parler. T'as tué personne, j'ai tué personne.
Arriver à convaincre un sous-directeur et un gardien de vous aider à vous évader, c'est quelque chose qui s'est jamais vu et qui, à mon avis, ne se reverra jamais.
Bah, si ça n'avait pas été un voleur, je crois que ça aurait été un type bien. Mais c'était un voleur.
20 septembre 1980, comme chaque samedi après-midi, l'hypermarché de Montélimar est bondé. C'est au moment de l'échange des recettes, alors qu'une des deux caissières se dirige vers la salle des coffres, que Bruno Sulac fait irruption pour mettre la main sur le butin. Jeannine Barnoin était à l'époque responsable des caisses. Contre toute attente, elle garde un bon souvenir de son agresseur.
Tout au long des années 80, Bruno Sulac a défrayé la chronique judiciaire par des braquages audacieux et sans la moindre effusion de sang. Follement épris de liberté, cet ancien légionnaire et parachutiste émérite a marqué les esprits par ses nombreux casses spectaculaires. Pendant 10 ans, il a défié les lois de la République et s'est joué du système carcéral aux côtés de Steve, son complice, et de Tali, sa compagne. Cet as de la cambriole a pourtant terminé sa vie dans des circonstances obscures qui suscitent encore aujourd'hui la polémique. C'est l'auteur Philippe Génada qui s'est attelé sur son dernier roman à reconstruire et reconstituer le périple de Bruno Sulac de la manière la plus authentique. Philippe Génada était invité dans le cadre du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, organisé par l'association Colère du Présent. J'ai sauté sur l'occasion pour m'entretenir avec lui au sujet de ce fameux cambrioleur qu'était Bruno Sulac.
Philippe Génada, c'est la première fois que vous venez sur Arras pour le Salon du Livre ?
Oui, c'est la première fois. En septembre ou octobre, dans un salon ailleurs, j'ai croisé quelqu'un de l'organisation d'ici qui m'a invité et qui m'a expliqué le principe du salon. Et j'ai dit oui, avec plaisir, et me voilà.
Alors donc, on va parler de votre livre Bruno Sulac. C'est quand même une histoire assez extraordinaire, une espèce d'épopée cambriolesque, on va dire. Alors d'abord, comment vous avez fait pour faire ce travail de recherche quand même qui est assez minutieux ?
C'était pas très difficile, c'était un grand plaisir, vraiment. C'est mon 8e livre. Les 7 premiers sont des livres qui parlent un peu de ma vie ou de vie qui sont un peu similaires à la mienne. C'est la première fois que j'avais besoin de faire des recherches, puisque je connaissais presque rien de ce garçon. Et ça a été, en fait, pour moi, vraiment une révélation. C'est-à-dire, j'ai pu, dans un premier temps, me procurer sur Internet le Libé du 12 janvier 83. Ça coûte 5 euros. Pomme, on le reçoit le lendemain à la maison. Et puis, j'ai rencontré, petit à petit, c'est comme une pelote un peu qu'on déroule. J'ai rencontré d'abord sa fille, sa sœur, sa fiancée de l'époque, ses complices, le flic qui lui courait après. Enfin, ça a été pour moi un travail absolument passionnant. Ça a duré un an ou un an et demi avant que je commence à écrire. C'était juste un travail de recherche, de documentation. J'ai même dû me faire violence pour me dire maintenant ça suffit, arrête de faire tes enquêtes. Je me sentais comme une sorte de détective dans le passé, quoi. Et donc j'ai vraiment dû me forcer à me dire maintenant c'est bon, tu as la matière qu'il faut, commence à écrire. Et c'était vraiment un vrai plaisir, un truc humain. Et ça me rappelait quand j'étais petit que je faisais les enquêtes dans Pif Gadget, les enquêtes de Ludo dans Pif Gadget. Et donc vraiment c'était pas du travail, c'était humainement plus que satisfaisant. C'est vraiment quelque chose qui a rempli ma vie pendant un an et demi, ouais.
Et ça se sent, hein, parce que dans votre écriture, on a l'impression que vraiment que vous vivez les choses en même temps que lui. Quelle est la part fictionnelle, justement, et comment vous avez agencé tout ça ?
Alors, quand le livre est sorti de l'imprimerie, de l'impression en en juin ou juillet 2013, deux mois avant la sortie, j'ai découvert qu'il y avait marqué roman sur la couverture. C'est mon éditeur qui a décidé ça, je ne savais pas, ça m'a un peu déconcerté, parce qu'en fait, tout ce qui concerne Bruno Sulac, la vie de Bruno Sulac, moi je me suis scrupuleusement attaché à respecter vraiment la vérité, peut-être pas de sa vie, mais en tout cas des témoignages que j'ai recueillis. C'est-à-dire que je pense, et très sincèrement, chaque mot qui retrace la vie de Bruno Sulac est vérifié, authentique, fidèle aux témoignages que j'ai reçus. Donc là-dessus, rien n'est romancé sur sa vie. Je pense que mon éditeur a marqué roman sur la couverture pour plusieurs raisons, entre autres, parce que je pense que l'ensemble, je ne parle pas que de lui, je parle aussi de manière un peu accessoire, mais je parle un tout petit peu de moi, de ma vie. Je passais mon bac à l'époque où lui braquait les bijouteries. Je parle un peu de choses qui se passaient à côté, au hasard, le suicide de Patrick Devers, la mort de la chanteuse Il était une fois, Spaggiari, Mesrine, bon. Donc je pense que l'ensemble a une sorte de construction qu'on peut qualifier de romanesque, la narration dans son ensemble. Mais en tout cas, et ça j'y tiens vraiment, chaque mot, chaque geste, chaque description qui concerne directement Bruno Sulac est fidèle à la réalité. Par exemple, il y a un truc moi qui m'énerve dans les soi-disant biographies, ce sont les dialogues. C'est-à-dire que quand on lit quelque chose qui est présenté comme un document, comme une biographie, il y a des dialogues, l'auteur imagine des dialogues. Évidemment, imagine, puisqu'il n'était pas là. Salut, ça va? Oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et moi, quand je lis ça, ça m'énerve. Je me dis, il nous prend pour des truffes. Donc là, il n'y a pas de dialogue du tout. Je ne me suis pas permis de prêter des mots à Sulac, sauf les seuls dialogues qu'il y a sont, par exemple, ces conversations téléphoniques avec Georges Moréas, qui était le flic qui lui courait après. Et ça, j'ai eu les cassettes, en fait. Ça a été enregistré. Donc, bon, c'est un exemple un peu anecdotique, mais je veux dire, j'ai vraiment, et c'est une promesse que j'ai fait à sa fille d'ailleurs, la première personne que j'ai rencontrée, donc c'est sa fille, je lui ai dit que je projetais d'écrire un livre sur son père. Moi je me dis, si quelqu'un arrive et me dit je vais écrire un livre sur ton père, je serai un peu sur mes gardes. Et donc elle m'a dit oui, pourquoi pas, et je lui ai promis de ne rien inventer, de ne pas essayer de me mettre dans sa tête et de penser à sa place, de lui prêter des intentions, des sentiments, des voilà. Donc en tout cas, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à ce qu'a été sa vie.
Finalement, j'imagine qu'ils l'ont lu, ce bouquin, ses proches. Alors qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Alors évidemment, j'avais très peur. Hein. C'est-à-dire que c'était normalement, quand j'écris mes livres, la seule personne qui m'importe, c'est ma femme, qui est ma première lectrice, qui lit mes livres. Si elle aime, je suis tranquille. Si elle n'aime pas, je suis effondré. Là, je l'ai fait lire à ma femme. Mais surtout, avant de le donner à mon éditeur, je l'ai fait lire donc à sa fille, à la sœur de Bruno Sulac, Pauline, qui est un peu la gardienne du temple, qui est quelqu'un de très important dans la famille. Et puis, je l'ai envoyé aussi aux parents et à ses autres frères et sœurs, avant de le présenter à mon éditeur. Et je m'étais dit, après quand même 2 ans et demi ou 3 ans de travail, je m'étais dit, s'il n'aime pas, si quelqu'un de la famille, surtout sa fille ou sa sœur, n'aime pas, je n'envoie pas à mon éditeur. Donc j'ai envoyé, j'ai mis dans la boîte le manuscrit d'une main un peu tremblante. J'ai attendu 3-4 jours sans beaucoup dormir. Et en fait, j'ai été très touché par la réaction de la famille, parce qu'ils ont vraiment... la sœur de Bruno, Pauline, m'a appelé en pleurant, en disant « C'est un magnifique cadeau, tu as rendu hommage à Bruno de manière... » Enfin bon... Sa fille a été touchée aussi, et sa fiancée, Tali, enfin son amoureuse, Tali, qui était aussi sa complice et qui m'a fourni vraiment le cœur du livre, la matière du livre. Son avis était très important pour moi. J'espérais avoir respecté ce qu'elle m'avait confié. Elle a été aussi très touchée, donc toute la famille a mis une sorte de cachet sur le livre. Et moi, à partir de là, mon livre était réussi, c'est-à-dire que après, j'espérais que ça allait plaire à mon éditeur, j'espérais que ça allait plaire à des lecteurs, mais du moment que la famille, les proches, m'avaient accordé leur confiance et maintenant me donnaient une sorte de billet pour dire « t'as respecté ce qu'on t'avait dit », j'étais tranquille.
Le braqueur pacifiste poursuit ses hold-up de supermarché avec un inégal bonheur. Pour Sulac, la difficulté consiste à trouver un alter ego qui partage sa philosophie du vol, se tirer plutôt que de tirer. À l'époque, Georges Moréas est l'un des plus grands flics de France. Il se lance sur les traces de Sulac.
Pour nous, ça n'a jamais été un truand professionnel. veux dire, c'était un marginal, c'était un aventurier, c'était ce qu'on voulait. On avait envie de se le faire. C'était, pour nous, c'est ce qu'on appelle un beau mec. On voulait se le faire. Mais à aucun moment on a pensé, non, vraiment, c'était... Personne, je pense, a même, s'est même dit à un moment, on va le mettre au grand banditisme, je crois.
Ce qui est phénoménal, parce que c'est des choses qui n'arriveraient plus aujourd'hui, cette histoire entre, justement, ce policier qui se parle au téléphone, qui s'agace l'un et l'autre. Et c'est vrai qu'on ne voit plus du tout ce genre de personnage.
Oui, c'est vrai. En même temps, je pense que c'est pas tellement dû à l'époque. Je pense que c'est comme si on disait... on voit plus de génies comme Einstein ou Mozart. Ou... Je pense pas que l'époque pourrait se prêter à ce genre de truc. Moi, j'ai été assez intrigué par l'histoire de quelqu'un qui lui ressemblait un peu, qui est en prison maintenant, qui est Redouane Faïd, qui était un peu le même genre de personnage. Moi, je pense que des personnages comme Bruno Sulac peuvent exister, il n'y a pas de raison. Je pense que, par contre, c'est peut-être presque plus dur de trouver des flics, des policiers, qui sont comme était Georges Moréas, assez ouvert à ce genre de trucs-là. Je pense que des bandits élégants et non violents, il peut y en avoir autant maintenant qu'en 1985. Des flics, c'est un peu plus difficile. Moi, j'ai dans le bar en bas de chez moi, il y a des policiers, dont je parle dans le livre d'ailleurs, qui sont encore un peu de cette race de policiers, hein, qui ne sont pas fermés avec des œillères. Mais il y en a de moins en moins, et donc je pense qu'il peut y avoir encore de bons flics et de bons gangsters.
Il y a le flic et il y a aussi son flic, c'est-à-dire cette sorte de sixième sens, c'est très intéressant. Ça, j'aimerais bien que vous m'en parliez un peu.
Alors ça, c'est Thalie, donc sa compagne, qui m'a raconté ça, et vraiment, donc moi évidemment j'étais pas là, et il y a qu'elle qui peut témoigner de ça, puisque c'est ce que je dis dans le livre. Par exemple, ils s'endormaient, ça faisait 3 mois qu'ils étaient dans une planque, dans une maison, et tout d'un coup, un jour, à 5h du matin, ils se réveillaient en sursaut. Ils lui disaient tout de suite, fais tes valises, on se barre, ils vont nous trouver. Au début, elle prenait ça un peu pour une sorte de pause, comme ça, où ils jouaient un peu le gangster, mais en fin de compte, elle s'est rendue compte que ben, les 2 ou 3 fois où il lui a dit ça, dans la demi-heure qui a suivi, les flics ont débarqué. Donc il avait vraiment des qualités assez particulières, hein, Bruno Sulac. C'était quelqu'un qui était vraiment doué, mais de manière presque extraordinaire. Enfin, presque, je ne vais pas dire paranormal, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait vraiment des sensations, des intuitions très fortes. Et donc voilà, il était prévenu par ceux qu'il appelait son flic, c'est-à-dire une sorte de petit bonhomme à l'intérieur qui l'avertissait. Ça lui a sauvé la vie et la mise pendant quelques années. Et puis finalement, bon, il n'y a pas de miracle. Il est quand même mort à 29 ans. Donc son flic n'a pas fait vraiment son boulot jusqu'au bout, quoi. Mais voilà, Thalie, donc sa compagne, sa complice, me raconte ça avec... vraiment, elle m'a cité de nombreux exemples de situations dans lesquelles son instinct, voilà, c'est son instinct comme un peu un animal traqué. Alors, ça nous paraît bizarre pour un être humain. En même temps, quand on voit un animal dans la forêt qui se met à fuir parce que 12 heures plus tard, il va y avoir un orage, ça ne nous étonne pas. Donc lui était peut-être comme ça, il y avait peut-être une sensibilité ou il était sur ses gardes en permanence. Donc voilà, et c'était ce qu'il appelait son flic. Ouais.
Ce qui est intéressant également, c'est cette sorte de chassé-croisé entre les différents personnages. On les suit, on suit leur turpitude, leur pérégrination tout le long du bouquin. Donc ça fait une sorte de road movie assez intrigant. Et en même temps, il y a quand même ces fameuses petites scènes de faits divers qu'on voit. Un tel a fait ceci pendant que l'autre faisait cela, etc. Cette construction, je la trouve assez efficace pour votre bouquin. Là aussi, c'est un choix de votre part ou vous avez suivi vraiment le mouvement de ce qui se passait réellement ?
Non, c'était un choix de ma part. En fait, le problème qui s'est posé quand j'ai décidé d'écrire, de raconter la vie de Bruno Sulac, je voulais trouver un moyen d'ajouter un peu de force, un peu d'âme à sa vie, de ne pas faire juste une biographie journalistique qui pourrait être très intéressante, hein, mais je voulais essayer d'exprimer, de mettre du sentiment là-dedans sans pour autant l'écrire vraiment, c'est-à-dire dire... pauvre garçon, c'était un garçon formidable qui n'a pas eu de chance, que c'est terrible, et ça, je voulais pas dire ça. Je voulais trouver un moyen de construire l'ensemble du livre qui soit émouvant, où il y ait de la sensibilité, etc. Comme je ne voulais pas moi-même l'exprimer, je me suis dit que si je parlais d'autres choses à côté, par comparaison, par exemple Bruno Sulac était quelqu'un qui était vraiment non-violent et qui c'était vraiment quelque chose de très important pour lui, au lieu de dire... ou de répéter Bruno Sulac était non violent, il n'a jamais fait de mal à personne, etc. J'ai mis en parallèle Mesrine, par exemple, qui a tué 38 personnes, ou il y a une scène dans un hôtel à Aix-en-Provence, non, Avignon, pardon, qui est un véritable carnage, où des types ont voulu braquer l'hôtel et ont tué 5 personnes. Et en fait, toute la construction du livre s'appuie là-dessus, c'est-à-dire au lieu de dire les choses, j'essaye, modestement, de montrer à côté ce que Sulac n'était pas. Ou ce qui s'est passé à l'époque, où je parle de Patrick Devers, par exemple, et du mal-être de Patrick Devers, qui peut être assez proche du mal-être de Bruno Sulac. Patrick Devers s'est tiré une balle dans la bouche, Bruno Sulac s'est d'une certaine manière suicidé. Il savait très bien, il prenait tellement de risques, il savait très bien que ça se terminerait mal, enfin voilà. Je me dis toujours, et ça dans tous mes livres précédents, mais peut-être plus dans celui-là, au lieu d'exprimer les choses de manière claire et un peu avec des gros sabots, essayer de montrer par opposition, de construire une sorte de... Si on montre un carré noir, on ne se rend pas bien compte que c'est noir. Si on met tout autour des carrés blancs, on a la sensation du sombre, de l'obscur et du profond. Donc voilà, c'est tout ce qui entoure l'histoire. Il y a plein de petites touches qui peuvent paraître anecdotiques, en tout cas accessoires, qui sont autour. C'est pour mettre en valeur la vie de Sulac.
Un palais de justice en état de siège, des tireurs d'élite sur les toits, les gendarmes mobilisés. À Albi s'est ouvert aujourd'hui le procès de Bruno Sulac, le roi de la cavale et du braquage, poursuivi avec son beau-frère pour un hold-up commis en 78 à Albi. Paul Lefebvre.
Voici Bruno Sulac, 28 ans, dont on dit qu'il a horreur de la violence, mais qu'il adore les bijoux. La rumeur publique le crédite d'ailleurs d'un magot énorme caché quelque part et qui peut-être va l'attendre si ses complices à l'extérieur ne sont pas trop gourmands. Sulac est arrivé à Albi dans un petit avion spécial de la gendarmerie, tandis que tous les carrefours de la route Toulouse-Albi étaient neutralisés au cas où. Car Sulac, qu'on va juger pour une petite affaire, un hold-up en 78 dans un supermarché, a un carnet de rendez-vous très chargé avec plusieurs juges d'instruction, en particulier à Paris pour 2 hold-up, 20 millions de bijoux, et à Cannes, 30 millions de bijoux. Sulac est un spécialiste de l'évasion, son bras droit a d'ailleurs été tué il y a une semaine à Bordeaux, en tentant de faire évader son chef par hélicoptère, une technique nouvelle mais qui a déjà réussi. C'est la raison des énormes mesures de sécurité prises autour et à l'intérieur du palais de justice d'Albi, une compagnie entière de CRS plus le GIGN ont été réquisitionnés, de quoi convaincre Bruno Sulac que pour l'instant l'occasion n'est pas la belle.
Cette scène fameuse avec l'histoire du professionnel, alors ça, j'imagine que c'est réel également. C'est quand même incroyable cette histoire.
Oui, bien sûr. Donc Bruno Sulac a croisé dans sa vie un Yougoslave qui s'appelait Steve, enfin qui se surnommait Steve. Qui s'appelait en fait Novika Zivkovic. Dès leur rencontre, ils sont devenus vraiment comme des alter-ego, des frères. Enfin, c'était vraiment une histoire d'amitié, mais avec pas un grand A, mais un A gigantesque. Et ce Steve ressemblait un peu à Bruno Sulac en version plus rude quand même. C'était un boxeur, c'était un type qui faisait 2 mètres. Je suis devenu très ami avec son petit frère d'ailleurs. On parle beaucoup de lui maintenant. On dîne ensemble de temps en temps. Et avec le même sens de l'humour, c'est-à-dire avec celui-là qui avait vraiment une sorte de... Il mettait un point d'honneur à ne pas faire les choses de manière trop directe. Il mettait toujours du panache, de l'humour, et Steve était pareil. Et donc, il était boxeur, c'était un des grands espoirs, il était champion de France poids lourd. À cette occasion, il a rencontré Jean-Paul Belmondo, qui est un grand amateur de boxe. Ils sont devenus assez proches, il est devenu garde du corps de Jean-Paul Belmondo. Steve a eu un accident de plongée qui l'a empêché de continuer sa carrière de boxeur, mais est resté assez proche. Et à l'époque où Sulac et lui étaient vraiment recherchés par toutes les polices de France, c'était vraiment... Mesrine était mort depuis 3 ou 4 ans. Eux sont devenus les ennemis publics numéro 1, grâce à Jean-Paul Belmondo et à René Château, qui était le producteur des films. Il a tourné dans Le Professionnel, il joue le rôle d'un flic, bon c'est même pas un second rôle, c'est une figuration. Il joue un des inspecteurs qui court après Belmondo. Il s'est amusé, il a une énorme Rolex en or qu'il avait volé avec Sulac, qu'il a pendant le tournage, alors qu'il est censé jouer vraiment un inspecteur de seconde zone, il lui faudrait 40 ans d'économie pour s'acheter la Rolex. Et donc voilà, moi ce qui m'a amusé, c'est de me dire, je sais que 60% des flics de France sont allés voir Le Professionnel quand c'est sorti, qui était un énorme succès, et qu'ils ont eu sous les yeux pendant quelques secondes le type après qui ils couraient, enfin l'un des deux types après qui ils passaient leur journée à courir. Et on peut voir sur internet, si vous cherchez sur YouTube ou je sais pas ces sites-là, la scène finale du Professionnel, on voit Steve, on le voit en face de Jean-Paul Belmondo. Alors il s'amuse, il a un gros revolver dans sa poche, il s'amuse à écarter bien ça, le pan de sa veste. C'est assez tristement prémonitoire, c'est-à-dire que dans Le Professionnel, donc lui en tant que flic adjoint, surveille Belmondo. Belmondo s'éloigne vers un hélicoptère et se fait tirer dans le dos. Et Steve est mort comme ça, 2 ans plus tard, sur un héliport, au moment où il essayait de monter dans un hélicoptère pour aller libérer celui-là qui était en prison. Il s'est fait tuer sur l'héliport de la même manière que... Bon, c'est un peu secondaire, mais voilà, c'est émouvant, quoi. Ouais.
Est-ce que vous auriez aimé, vous, être Bruno Sulac et vivre, évidemment, tout ce qu'il a vécu ?
Jamais de la vie, non. Justement, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le fait de raconter cette histoire, c'est que moi, je me suis senti, en fouillant un peu dans sa vie, très proche de lui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une sorte de... Ça aurait pu être un ami. Dali, sa compagne et sa complice, est devenue une amie très proche, on s'entend vraiment très bien. Ça aurait pu être un ami, et j'ai l'impression que c'est une version de moi, comme... le Milou noir et le Milou blanc, quoi. C'est-à-dire que celui-là, c'est vraiment le contraire de moi. C'est-à-dire que moi, je n'ose même pas rentrer dans une boutique de vêtements pour demander ce qu'ils ont comme taille de pantalon. Lui, il rentrait dans les bijouteries pour demander qu'on lui donne tout ce qu'il y avait dans les vitrines. C'est-à-dire, vraiment, moi, je suis casanier, je suis trouillard, je suis raisonnable, enfin, raisonnable dans une certaine mesure. C'est l'inverse de moi, en fait, Bruno Sulac. Mais... Il me semble que d'une manière ou d'une autre, au-delà des apparences et des faits, on est assez proche. Enfin, lui, à la fin de sa vie, alors Bruno Sulac, c'est assez amusant, il avait hésité entre le gangstérisme et la littérature. À la fin de sa vie, il disait « j'aurais mieux fait d'écrire, ça m'aurait permis d'être en marge mais toléré ». Alors que le braquage de bijouterie, on est en marge et pas toléré, on finit sa vie en prison. Tout à la fin de sa vie, les 2 ou 3 derniers mois qu'il a passé en prison, il a écrit des chroniques dans l'autre journal, qui est, moi, le journal où j'ai publié mes premiers textes quelques années après lui. Donc voilà, je pense que lui était gangster et il aurait peut-être aimé être écrivain, en tout cas s'exprimer par l'écriture. Et moi, je m'exprime par l'écriture. J'aurais pas aimé... Si, dans mes fantasmes, j'aurais aimé être gangster, mais je sais que c'était impossible. Donc il y a une sorte de proximité comme ça, qui est une des choses, moi, qui m'a, j'allais dire attendri, c'est un peu mièvre, mais enfin, en tout cas, qui m'a fait pencher vers ce garçon.
Écrire ne fait pas oublier à Bruno Sulac la détention, l'insupportable enfermement. Le DPS Sulac ne veut pas vivre en cage. Reste que la forteresse est de taille. Mais rien ni personne ne semble lui résister, pas même certains fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, fascinés, qui vont lui prêter main forte pour une nouvelle tentative d'évasion.
Bruno Sulac a tenté la nuit dernière de s'évader de Fleury-Mérogis. Bénéficiant sans doute de complicité agissante à l'intérieur de la prison, il avait à sa disposition des explosifs et des clés des portes. Surpris par des gardiens, il a dû sauter du 2e étage. Il est ce soir sous forte protection dans un hôpital parisien et son état est jugé désespéré.
C'était un entretien avec Philippe Génada, auteur du roman Sulac. Il était invité dans le cadre du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, organisé par l'association Colère du Présent. Les virgules sonores que vous avez pu entendre tout au long de cette interview proviennent d'un documentaire spécial Affaire Sulac Gentleman Cambrioleur, ainsi que du journal de France 2 de l'époque.